19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, bienvenue, vous le savez c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici même sur Beurre FM, dans les informés, je ne vais pas le répéter, c'est très simple, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie infiniment. On démarre cette semaine parce qu'il y a un événement qu'il ne faut pas manquer. Eh oui chers amis auditeurs, je vous ferai participer tout à l'heure, parce que cet événement, vous savez, c'est un tel événement télévisuel. Et on va recevoir plusieurs invités qui vont en parler. On reviendra sur 2-3 sujets qui ont retenu notre attention. C'est l'arabe dans le poste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est l'événement de demain. Ça se passe sur TF1, TMC. Mais surtout, c'est réalisé, co-réalisé par 2 brillantissimes réalisateurs qui viennent en parler ici. Mais, Azedine Ahmed Saous n'est pas venu seul. Dans ses bagages, eh bien, il a été accompagné par Moral Chibout, que je ne présente même plus, puisque figurez-vous, éminent, évidemment, président de... On va brosser son portrait tout à l'heure. Et puis, une éminente historienne qui est avec nous aussi, sur ce plateau, Naïma Yahi, qui est avec nous également. Voilà, tout ce beau monde vient parler à la fois de ce documentaire exceptionnel, puisqu'événement exceptionnel, ça se passe sur TF1, TMC, demain soir, rendez-vous à ne pas manquer. Beurre FM est partenaire, et sachez-le, évidemment, on accompagne ce documentaire réalisé par notre confrère, Azedine Ahmed Chaouch, et on parlera aussi, surtout avec notre historienne, et évidemment le regard économique de nos deux invités, puisqu'on reviendra sur les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de ces 40 ans? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est malheureux franchement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais bon, clochette. Quand je dis de pire en pire, parce que j'ai l'impression qu'on fait 10 bons en avant, mais on en fait 50 en arrière. Clochette. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Un tour de table avec celui qui a co-réalisé le film, celui qui a certainement aussi fait naître ce produit, l'arabe dans le poste.
Le produit. Ça claque. L'arabe est un produit.
Le documentaire est un produit.
Je rigole.
Pas l'arabe.
Avec Youssef Kemal.
Ah, tu commences comme ça.
Il faut pas oublier, tu dis co-réalisateur. Il y a
co-réalisateur,
Youssef Kemal.
Bien sûr.
Ouais, effectivement, la particularité, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la télé française, pendant 90 minutes, une quinzaine de maghrébins s'expriment, et pour une fois c'est pas du foot, c'est 90 minutes. Voilà, on donne la parole à une quinzaine de personnalités d'origine maghrébine.
Mais on va en parler.
Oui, bien sûr.
Non, on va en parler. Attends, justement, je fais un tour de table.
D'accord.
Non,
oui.
Non, j'accueille d'abord les invités.
Tu m'as mis une pièce.
Ah non, mais ça y est, il est parti. Vas-y, on voit que c'est un homme de radio, de télé. Ça y est, hein. Il est chez Barthez là. Vous savez, il est chez Dans Quotidien. Il est parti dès qu'il a le micro. Moral Chibout, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Écoutez, au top, ravi d'avoir participé à ce documentaire. J'ai été torturé pendant tout le mois de mars.
Torturé. La bonne torture quand même.
La bonne torture, pendant 3 heures, en plein ramadan.
Président.
Et c'était exceptionnel en tout cas.
Vous présidez donc un groupe, c'est ouais. Discount, et puis je ne vais pas revenir évidemment sur tout le CV, cette belle carrière évidemment au sein de grandes entreprises. Merci d'être avec nous, Moral Chibout.
Plaisir partagé,
vous reviendrez, puisque vous avez été, je crois, vous avez fait l'objet de plusieurs portraits dans plusieurs...
Oui, dans la presse récemment.
C'est Nouvelle ça. Ops.
Oui, dans l'Obs, l'Express.
L'Express aussi.
Oui, la.
Ça parle de la
République du Centre.
La République du
Centre,
ouais.
C'est ça en plus, là.
Bravo.
J'ai fait beaucoup de promotion pour ce documentaire qui est exceptionnel.
Exactement. Naïma Yahi, bonjour l'historienne, madame l'historienne, comment
bonjour.
Ça va?
L'historienne amatrice de football.
Amatrice de football.
On me dit qu'on a 90 minutes et 2 mi-temps.
Ouais.
Donc heureuse d'avoir effectivement échangé en tant qu'arabe moi-même, arabo-berbère et historienne, donc à la fois sujet et observatrice. Au micro et à la caméra de Youssef Kemal et de Aziza.
Et vous aimez parler parce que vous nous racontez, vous nous plongez dans l'histoire, évidemment.
Écoutez, c'est mon obsession, c'est ma passion.
J'ai vu que c'était votre obsession. À vos côtés, vous savez, c'est le co-réalisateur, justement. Il a été présenté par Azedine Ahmed Chaouch. Il s'appelle Youssef Kemal. Bonjour, Youssef.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien. Ravi d'être là aussi.
Ravi aussi. Allez, messieurs, je vous pose à vous deux d'abord la première question. Comment est né, justement, ce documentaire? Pourquoi parler de l'arabe dans le poste alors qu'aujourd'hui, on est en pleine, c'est tumultueux en ce moment? On est dans un climat délétère, on parle que de ça, on parle de, vous savez, la chasse aux musulmans en permanence. Enfin, ils ont le sentiment, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure parce que je veux entendre aussi les auditeurs venir vous interpeller directement. L'arabe dans le poste, comment? La genèse, comment est né ce documentaire?
Alors déjà sur le timing, ça fait un an qu'on travaille sur ce sujet avec Youssef. Moi, ça vient d'une réflexion personnelle, de ma trajectoire propre. Mes parents sont nés en Algérie, à Tébessa, dans l'est de l'Algérie. Et effectivement, moi, en tant que fils d'Algérien, j'ai rencontré, et on peut le dire, parfois dans mon parcours certaines difficultés. J'en avais pas fait une obsession parce que j'arrivais quand même à obtenir des jobs intéressants, à progresser dans ma carrière de journaliste. Et puis
vous avez été freiné parfois, subi la discrimination directe.
C'est déjà arrivé, pas beaucoup de fois. Une fois dans une rédaction, je vais pas la citer. Le rédacteur en chef se reconnaîtra, une vieille rédaction. Voilà. Mais donc oui, à force de progresser, de
vous avez ressenti que vous étiez arabe. Vous
oui.
étiez d'origine.
Oui, ça se voit un peu avec mon nom. Hein. Voilà, mon nom sent un peu l'huile d'olive. Hazdine Ahmed Chaouch. C'est compliqué de passer à côté. Mais c'est vrai qu'en faisant de l'antenne, de plus en plus, je sentais que j'étais un peu l'exception et je le ressentais de plus en plus, alors que on était passé par des périodes où on a vu Rachid Arab émerger, on a vu Rachid Dati en politique, et je me suis dit comment se fait-il que justement 40 ans après la marche des beurs pour les médias, et sinon la marche
pour l'égalité,
j'ai même écrit parce que tellement on a du mal à l'intégrer pour l'égalité et contre le racisme, 40 ans après, il est vrai que la représentation, la représentativité, la visibilité des Maghrébins de France, bien, elle n'était pas encore assez puissante, assez présente. Et de cette visibilité, moi, j'ai voulu en tirer une histoire de l'immigration maghrébine, c'est-à-dire à travers les images, à travers les séquences, à travers ce qu'on a vu dans les JT à la télé. Qu'en est-il aujourd'hui de la place des Maghrébins de France dans la société française ?
Quel est le fil conducteur ?
Le fil conducteur, c'est la télé, les images, des milliers d'heures d'archives qu'on est allé fouiller, et avec peut-être, on va dire, une réflexion triple. Un, comment la société française a vu les Arabes. Deux, comment les Arabes se sont vus dans la société française. Et trois, comment ils auraient aimé être vus. Voilà, c'est pour ça qu'on apprend, par exemple, dans ce documentaire, qu'on voit très peu d'Arabes dans les publicités. C'est une des minorités qui est le moins représentée. Et on essaie d'analyser, par exemple...
On a une explication aujourd'hui, par exemple, tiens, je m'adresse à madame l'historienne, est-ce qu'on a une explication sur le fait que Hazidine Ahmed Chaouch nous explique qu'aujourd'hui, dans la pub, par exemple, il y ait très peu de cette représentativité? On fait référence, évidemment, bien sûr, du franco-maghrébin.
Alors, j'oserais une analyse. Je dirais simplement que c'est un problème d'imaginaire. On imagine que ce n'est pas une section de la communauté nationale qui puisse faire vendre. Et son pouvoir d'achat ne semble pas attiser l'imagination des créateurs de publicité. Aussi parce qu'on craint ce qu'on appelle le communautarisme. On aspire à une forme d'invisibilité de cette communauté qu'on trouve problématique. De manière fondée ou infondée, moi je dirais infondée, et c'est cette angoisse à ne pas nommer les choses, à ne pas dénommer cette présence des arabo-berbères en France depuis plus d'un siècle, qui les efface des représentations et des imaginaires, en tout cas quand on veut être universel.
Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, franchement je vous pose la question de façon cache et simple, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui que l'arabe pose problème quand on pense à la pub, quand on pense aux médias, quand on pense au cinéma? Est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans, on va en parler, les 40 ans, comme vous faisiez référence à Zedine, des 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, est-ce qu'il n'y a pas un problème encore plus aujourd'hui avec l'arabe, avec le franco-maghrébin?
Il y a un problème qui est un héritage du fait colonial. Je pense qu'on est dans une séquence depuis un peu plus de 60 ans, après la fin de la présence française en Afrique du Nord, où on n'a pas compris sa part de berbérité, d'arabité en France. Notre communauté nationale n'a pas su accepter le miroir qu'on lui a tendu, c'est celui de ce film. C'est de lui dire de manière réjouissante qu'il y a des arabo-berbères qui sont français et ça vient pas de nulle part. Il y a une histoire, un conflit, un patrimoine, un partage.
Le co-réalisateur Youssef Kemane, justement, quelle patte vous avez apporté aux côtés d'Azidine? Quel a été votre rôle, justement, dans ce documentaire? Dès le départ, quand vous avez été sollicité par Azidine, comment vous avez imaginé les choses dans la réalisation, dans la conception, dans la structure, dans l'articulation de ce film, de ce documentaire?
Nous, ce qu'on voulait raconter, c'était surtout partir des trajectoires personnelles et des récits personnels de chacun. On a tous je pense que si vous posez la question à tous les arabo-berbères, on a tous les mêmes souvenirs, les mêmes à la télévision.
Et vous le racontez dans le documentaire.
Voilà, exactement. Et c'est-à-dire qu'on raconte tous, notamment le voyage, le retour au bled.
Au bled,
beaucoup de personnes.
On l'entend avec Ramzi, Jamel Debbouze.
Voilà.
C'est assez marrant, d'ailleurs.
Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est en discutant avec Hazdine, en échangeant sur ces histoires-là, on a commencé à articuler. On s'est rendu compte qu'entre lui et moi, il y a quand même beaucoup de points
C'est allé très loin parce que là il est pudique, mais
Azedine.
On s'est rendu compte. Parce que là, je connais. Ah,
je peux vous raconter la ouais, première vas-y. Rencontre avec Azedine. Donc, ouais. Donc on discute, on se connaissait pas vraiment, et il me dit bon alors t'es de quelle origine? Je lui dis je suis d'origine algérienne. Et toi? Il me dit bah moi aussi. Il me dit mais tu viens d'où? Je lui dis ah non mais laisse tomber, tu vas pas connaître cette ville. Il me dit ah, vas-y dis. Je lui dis ah, c'est dans l'est de l'Algérie, c'est Tébessa. Et là je sens les yeux d'Azedine briller.
C'est un truc de fou, c'est voilà. Une ville importante, c'est pas la plus grande ville algérienne.
C'est quelle sacrée coïncidence quand même. Oui.
Et là, on est de la même ville lui et moi, Tébessa, dans l'est algérien. Et
c'est fou ça quand même, non?
C'est un petit peu rare.
Le destin, ouais, c'est super destin, rare. Donc,
on c'est la troisième personne. Mon père pendant l'entretien, je le mets sur haut-parleur, la famille Kéman, d'accord et tout. Il fait sa petite enquête, après on se rend compte que les familles se connaissent un peu, tout ça. Et là on s'est dit, alors je n'ai pas encore vu tes images. Et là c'est mon frère. Enfin, et là, on s'est dit, j'ai pas encore assez vu tes images, mais c'est impossible qu'on ne travaille pas ensemble. C'était scellé. Voilà. Le pacte était scellé.
Voilà, exactement.
Bon, Alde Chibult, justement, je vous pose la question concernant le fameux plafond de verre qui régulièrement fait sujet. Hein. On en parle dans les médias, mais aussi au sein des différentes entreprises. Aujourd'hui, quel constat dressez-vous quand on voit tous ces franco-maghrébins qui rencontrent encore des difficultés, qui, bien sûr, quand au sein d'une entreprise, petite, moyenne ou grande, rencontre quand même malgré tout. Il y a ce fameux plafond de verre qui est en suspens en permanence. Ça devient quand même pénible. C'est pénible pour quelqu'un qui est issu de la troisième, quatrième génération.
Bah, c'est plus que pénible.
Parce qu'il ne comprend pas.
C'est plus que pénible. Je pense que pour une certaine frange de la population, c'est un peu déprimant même. En fait, si je retiens, finalement, au fond, il y a trois phases. Il y a la première partie des jeunes qui arrivent à faire des études supérieures et qui ne sont pas cadres, mais cadres intermédiaires, qui, eux, savent qu'ils vont rester contingentés pendant un bon moment dans une structure un peu intermédiaire. Après, la deuxième, qui est les cadres sup, là, pour rentrer dans l'autre partie, qui est ce qu'on appelle les comités exécutifs, les comités de direction, ils ont énormément de mal. Et ensuite, vous avez la troisième étape, ce que j'appelle, moi, le plafond de béton, c'est-à-dire...
C'est mon niveau,
où vous arrivez dans ce qu'on appelle l'executive management, c'est-à-dire véritablement les décideurs, c'est-à-dire ce qui est dans les comités exécutifs. Et c'est très,
et
très
pourtant,
compliqué.
Vous êtes au COMEX, vous?
Moi, je suis au COMEX. Alors, ouais. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, on est 4-5. Oui, moi, j'ai eu la chance à la fois... dans le groupe Casino, chez Vincent
Bolloré. Vous n'êtes pas nombreux, il me semble.
On est
4-5, c'est ça.
4-5, à peine.
Il y a
la dernière qui a été nommée, je crois que c'est la directrice générale de Kiabi, entre autres. Quoi. Le reste, ils ont du mal à franchir ce plafond de béton qui est quand même aujourd'hui très très difficile à pénétrer, et en tout cas même à fracturer. Alors pourquoi il se passe ce genre de phénomène? En fait, on a un triple phénomène en France. Premier phénomène, c'est que la structuration du modèle éducatif en France, elle est basée sur, un, les écoles d'ingénieurs, les écoles polytechniques centrales et hautes. Deux, les écoles d'administration, c'est-à-dire dont on peut parler l'ENA, on peut mettre Sciences Po. Et la troisième, les grandes écoles de commerce. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes sur un système de reproduction, finalement, au fond, de l'élite sociale. Et donc, à partir du moment où on est dans ce modèle de reproduction, ben, la reproduction, elle se fait à l'intérieur même des gens qui se connaissent. Or, ça a un avantage énorme pour eux et un inconvénient, finalement, au fond, pour tous nos jeunes. C'est que, eux, ils peuvent se donner les postes entre eux. Parce que finalement, au fond, on est dans un système de renvoi d'ascenseur. Et deuxièmement, les jeunes qui veulent rentrer n'y arrivent pas pour une raison très simple, c'est que ces gens-là, cette élite aujourd'hui qui était fabriquée par la société française, accepte pas finalement, au fond, ces jeunes parce qu'ils disent, ils pensent pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Et deuxièmement, ils disent qu'ils ont pas les codes.
C'est dur d'entendre ce que vous dites. Hein.
Oui, mais
ils pensent pas comme nous. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de nous dire? Ils pensent pas comme nous.
Bien sûr, parce que nous.
C'est terrible.
Oui. Mais nous avons une manière.
Ils pensent pas comme nous, donc on vous écarte.
Exactement. Vous avez une manière un peu disruptive de voir les choses. Nous, notre côté analytique, c'est-à-dire que quand vous avez des grandes écoles, ils sont formatés finalement au fond comme on leur demande d'être formatés parce que le système scolaire les a formatés comme ça. Quand vous arrivez,
c'est pas une histoire de code.
Alors ça, c'est la deuxième des choses. C'est ce que je disais. Ils pensent qu'on n'a pas les codes. C'est ce que je dis un moment dans le documentaire.
C'est pour ça que je vous pose la question. C'est parce que vous dites
qu'on n'a pas les codes
dans le documentaire.
C'est faux. Alors peut-être que certains ne les ont pas, mais en tout cas, les codes, c'est quoi? C'est du comportement, du langage. Moi, je vous en cite des centaines aujourd'hui qui sont dans des entreprises, que ce soit chez Robcar Mobility, que ce soit chez Louis Vuitton, que ce soit chez Essilor, qui aujourd'hui ont parfaitement les codes, qui sont des gens brillants, enfin, surtout des femmes et des hommes brillants, et aujourd'hui qui n'arrivent pas à franchir le cap supérieur. Et ça, c'est dommage, c'est triste. Alors, ça crée des vraies frustrations. On expliquera tout à l'heure ce qui se passe pour ces jeunes.
Eh ben, on va en parler, on va marquer la première pause, justement, ici, dans Les Informés, émission spéciale, l'arabe dans le poste, co-réalisé par Youssef Kéman et Azedine Ahmed Chaou. Justement, on reviendra sur les 40 ans, 40 ans, souvenez-vous, c'est les années 80, finalement, sous l'impulsion, vous savez, de ces franco-maghrébins. Pour la première en France, eh bien, on parle de cette immigration maghrébine, on parle de ces Français issus du Maghreb. Eh bien, on reviendra sur cet événement. Les 40 ans, quel souvenir avez-vous, chers amis auditeurs? Je fais référence à vous. Venez nous interpeller au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert, Solal vous accueille. Les 40 ans pour l'égalité et contre toutes les formes de racisme, venez en parler et surtout venez en parler, échanger avec nous sur ce documentaire exceptionnel.
Ah bah oui, il est magnifique. Évidemment.
Grand public. Grand public.
Ah, très grand public. Parle à tout le monde, c'est très important et je ne veux pas m'attarder, c'est un documentaire apaisant, émouvant, mais on rigole beaucoup. On sourit, on rigole.
Voilà, on va écouter le teaser tout à l'heure. A tout de suite, ne bougez pas et on vous attend au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les informés, on parle de ce documentaire exceptionnel qui sera diffusé demain à 20h.
21h25, mais venez à 20h. Hein, 21h25, il y a quotidien, il y a plein de bonnes choses.
TMC.
TMC, exactement. Après l'émission quotidien.
Les amis auditeurs, notez bien, rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Voilà. 21h25.
Venez avant, parce que j'en ferai la promo encore.
Voilà, si voilà venez avant. Avec Azidine Ahmed Chaouch, avec Moral Chibout, justement pour en parler avec Naïma Yahi, et enfin avec Youssef Keman. Justement, on va écouter un petit extrait du teaser. Ah. Eh oui. Il faut aller donner envie à nos auditeurs. Et en plus, si ça vous intéresse, je veux quand même qu'on écoute nos auditeurs.
Oui.
Voilà, pour parler des 40 ans pour l'égalité et contre le racisme. Écoutons le teaser, l'arabe dans le poste, allons-y.
Est-ce que vous-même vous avez des préjugés sur les arabes ou pas?
Bah, en soi, cette question en est une.
Les années 90. Zinedine Zidane offre à la France sa première Coupe du Monde.
Le France Black Blamber, c'était fabuleux.
Jamel se hisse au sommet du cinéma hexagonal.
Une barbarité que j'appelle Rachid Arab pendant tout le...
Mais c'est mon nom, vous pouvez le faire.
Et Khaled fait danser tout le pays. Mais où en sommes-nous aujourd'hui?
C'est plutôt une bonne question.
À l'occasion des 40 ans de la marche des beurs,
une camarade m'avait dit « Tu sens mauvais parce que t'es une arabe ».
Je vous propose un doc inédit sur la représentation des Français d'origine maghrébine à la télévision.
C'est rarement la fiesta quand on parle de nous.
Plongé dans des milliers d'heures d'archives pour retracer la grande histoire des Arabes dans le poste.
Enfin un verre, président !
Un film sans tabou.
On n'est pas des éléments de figuration.
Apaisé et optimiste.
Apaisé, optimiste, justement. Quelles sont les personnalités qui ont joué le jeu, qui ont accepté? Et quelles sont celles et ceux qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas voulu jouer le jeu? Ou faute de temps
Comme on dit, je ne suis pas une balance, une poucave, je ne dirais pas ce qu'il y a. Mais j'ai eu, par exemple, un grand acteur au téléphone, un grand acteur qu'on adore tous, et qui m'a expliqué que peut-être que ce n'est pas évident, quand on est un acteur, de s'enfermer dans ces questions-là. J'ai compris, il m'a expliqué. Voilà, et on peut comprendre, mais ça voulait dire quelque chose sur la difficulté de parler de sa trajectoire et de son passé, de ses origines maghrébines, quand on est un personnage public et à plus forte raison quand on est un acteur. Bah, tous les personnages, les deux que vous avez ici, ils ont, ont été.
Naïma Yahi et Moral Chibout.
Oui, exactement, ont joué le jeu.
Rachida
Dati, elle se livre beaucoup comme jamais. Elle parle de sa famille,
elle parle de ses parents. Ouais, elle est très à l'aise. Hein.
Bah, elle l'a dit en off, elle expliquait que peut-être que le fait qu'on partageait une expérience commune, elle se sentait plus à l'aise. Elle savait que mes parents sont d'Algérie, que peut-être on avait rencontré des difficultés similaires. Les frères et sœurs Bédia, Ramzi Bédia, il est exceptionnel dans ce doc. Il est en même temps drôle comme on le connaît, mais il est profond. Il analyse les choses. Et c'est aussi ça, là, peut-être, je dirais, la force, c'est qu'on a des personnalités qu'on a interrogées, comme Mourad et Naïma, qui, en même temps, racontent leur vie, mais analysent aussi. Nous, c'était ça aussi l'idée, c'est les récits de vie, évidemment, ce sont des personnes d'origine maghrébine. On ne voulait pas que les sachants, comme on dit, soient d'autres, qu'ils n'aient pas des origines maghrébines. On a des historiens, on a des chefs d'entreprise, on a des médecins, on a des journalistes, on a des artistes, on a des chefs cuisiniers. C'est ça aussi le parti pris de ce documentaire. Montrer que le maghrébin en France n'est pas où le héros providentiel qui gagne la Coupe du Monde ou qui fait soulever les foules en concert, ou le délinquant ou l'islamiste radicalisé, il y a cette peut-être masse silencieuse qui travaille. Oui, le maghrébin peut être bourgeois, oui, peut être beauf, il peut être vegan, oui, il peut être de droite ou de gauche, et c'est ça aussi l'objet de ce film.
Justement, l'historienne, madame l'historienne Naïma Yahi, vous dites que la France vit dans un mensonge. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, justement, dans l'arabe dans le poste? Qu'est-ce que vous vouliez nous faire entendre?
En fait, il y a un risque.
Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent dans votre...
Le mensonge, c'est de gommer les aspérités, les faciès, les patronymes dans notre mémoire collective et notre histoire nationale, et qui provoque un sentiment d'insécurité culturelle chez nos concitoyens, parce que ils ont l'impression d'un déclassement ou d'une culture qui viendrait les grands remplacer. Mais quand on parle des Maghrébins, qui sont ce qu'on entend par l'expérience sociologique, les Arabes, alors que la plupart sont berbères, ce sont avant tout une communauté qui est là depuis la fin du 19e siècle, qui a porté les couleurs du drapeau pendant les grandes guerres, qui a fait l'histoire des mines, des docks, la mémoire combattante, les Trente Glorieuses. Bien sûr qu'il y a eu des conflits de décolonisation qui vont marquer durablement notre pays, mais ils n'ont jamais eu de cesse de s'installer et de rester, d'offrir leurs enfants à ce beau pays. Et aujourd'hui, ils sont français depuis de très nombreuses générations, mais on continue de les essentialiser, parce que ce mensonge, c'est de ne pas dire que l'identité est en mouvement. L'identité n'est pas figée, elle n'est pas sclérosée, elle est riche en mouvement. Être français aujourd'hui, ce n'est pas être français hier, et ce ne sera pas être français dans 50 ans, puisque le visage de notre...
Non, mais comment expliquer à un gamin aujourd'hui de la cité, des quartiers populaires, lorsqu'il est collégien, lui dire effectivement cet effet miroir, est-ce qu'il existe encore? Justement, c'est une question que je vous pose à tous. Je voudrais ouvrir l'antenne, parce que je voudrais accueillir Anan de Créteil, Ibrahim de Saint-Ouen, pas mal d'appels, donc 01 53 48 3000. Chers amis auditeurs et auditrices, partout en France, venez justement poser vos questions, interpeller, parler des 40 ans. Quand on est gamin, d'accord, ce gamin des quartiers populaires, lorsqu'il va découvrir demain ce document passionnant, exceptionnel, excellent documentaire co-réalisé par vous deux, Youssef Kemane et Azedine Ahmed Chaouch, passionnant aussi, est-ce qu'il voit cet effet miroir?
J'espère en tout cas.
Il est important cet effet
miroir. Oui, à travers les personnalités aussi.
On n'a plus de marqueur aujourd'hui, Azedine.
Oui, mais à travers les personnalités qu'on a choisi d'interviewer, oui, il y a toujours cette volonté, cette obsession, mais justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, d'avoir des inspirateurs. On a besoin d'inspirateurs, de modèles. Alors, ils sont importants, il faut les mettre en avant, mais le problème, c'est que peut-être ils sont encore trop rares. Aujourd'hui, savoir que Rachida Dati, je l'interview encore comme une exception, c'est une exception, Rachida Dati, elle est encore aujourd'hui une exception. C'est encore la seule qui a obtenu un ministère régalien. C'est quand même, voilà, Rachid Arabe, il sonne encore comme une exception aujourd'hui. Mmh. Il y en a quelques-uns. J'ai été chroniqueur, j'ai des copains qui présentent des tranches d'infos dans les journaux d'infos continues. Mais ça reste des exceptions. Mais ces exceptions, moi j'ai envie de m'accrocher à ces espoirs-là, les mettre en avant, leur donner la parole. Peut-être que ce sont des personnalités qui ont toujours un peu refusé aussi d'essentialiser leurs propos pour ne pas être enfermées. Et là, j'ai l'impression, peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec leur histoire, ces personnes, aujourd'hui, veulent prendre le micro et veulent dire oui, soyons fiers, oui, c'est possible, oui, ça va être difficile, mais oui, battons-nous quand même pour arriver à exister.
Avant d'ouvrir l'antenne, parce que je pense que nos auditeurs et nos auditrices s'impatientent pour intervenir, Morel Chibout, Youssef Kemane, Morel Chibout, je vous pose la question, vous avez un regard d'entreprise, justement, même question, est-ce que l'effet miroir existe, l'exemplarité, vous savez, cette fameuse exemplarité, tout le temps on en parle, on la met en avant, est-ce qu'elle est aujourd'hui toujours d'actualité? Est-ce qu'il existe ce marqueur, l'arabe dans le poste? On le voit effectivement, vous avez cité toutes ces personnalités, mais Morel Chibout aujourd'hui, quand on voit les sondages, quand on voit le constat, les jeunes aujourd'hui, une fois que évidemment le diplôme est en poche, ils se barrent, ils quittent la France.
Oui.
Est-ce qu'on...
Moi, je pense
comment les retenir? Il est où? Est-ce que ce marqueur d'exemplarité existe toujours?
Moi, je pense que dans le documentaire...
Beaucoup se barrent. Hein.
Mais oui, il y en a beaucoup qui partent. Moi, je pense que dans le documentaire, il a deux avantages. Un, effectivement, il montre des modèles. La deuxième des choses, c'est qu'ils montrent et ils doivent donner une certaine fierté. Et ils doivent se dire que finalement, au fond, tout est possible. Alors, si je reprenais, comme disait Jacques Prévert, c'est tout est possible, rien n'est permis, ou rien n'est permis, tout est possible. En tout cas, ça donne finalement, au fond, une lumière pour un certain nombre de jeunes. Moi, j'ai eu la chance depuis que j'ai posté sur LinkedIn un certain nombre de messages, oui, d'avoir énormément de messages. Je crois que je les ai partagés avec toi. Et ce qui revient, tu pourras en lire quelques-uns, c'est la fierté, c'est de l'admiration, et puis c'est dire tenez bon, parce que finalement, au fond, vous êtes un fer de lance, vous êtes un modèle, vous êtes un peu un pionnier.
Et on a envie de s'inspirer de vous. J'en ai un par exemple là sous les yeux. C'est vrai que quand on voit le documentaire, par exemple demain, c'est ce qui va se passer. Je vous remercie d'avoir accepté, etc. Votre parcours est un grand parcours admirateur. Vous êtes un modèle de réussite pour les talents nombreux dans nos quartiers populaires. Mmh. Et ben ça manque aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour
quand
ça
on voit des messages comme ça, il y en a pas mal.
J'en reçois beaucoup. Hein,
source d'espoir, tiens. Source d'espoir.
Bien sûr.
Source d'espoir, il y en a un qui écrit.
Oui, bien sûr. Et il faut continuer. Alors, c'est pour ça que je les accompagne, je les aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense, et je continue à le redire, même si ça crée des polémiques, c'est des sources, finalement, au fond, aujourd'hui, de valeur ajoutée pour la nation française. Ce sont des contributeurs au développement de la nation française. Il y a quand même des choses qui sont assez simples aujourd'hui. C'est qu'on ne met pas en avant aujourd'hui tous ces gens, tous ces cadres qui ont été formés par la nation française. C'est quand même les enfants de la République. Nous sommes les enfants de la République française. L'État a payé pour, finalement, au fond, nous éduquer, nous amener jusqu'à ses études supérieures. Et donc, être capable aujourd'hui de faire émerger. Et c'est dommage qu'il n'y en ait que quatre à peine. La jeune qui a été directrice générale de Kiabi, par exemple, m'a raconté qu'elle a eu 250 000 messages quand elle a été nommée. Moi, juste aujourd'hui, en balançant quelques postes, je me retrouve avec quasiment 7 000 messages. Et que c'est que des messages d'espoir. Et donc, c'est important de les entretenir.
On a besoin de ça. Je vous donne la parole tout de suite après. Je vais juste, Youssef Kemane, je ne vous ai pas oublié. Anan de Créteil. Bonsoir, Anan.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Mais très bien, bonsoir, très bien, Anan. Quel plaisir de vous entendre. Vous allez pouvoir interpeller nos invités. Je vais aussi accueillir Ibrahim de Saint-Ouen. Bonsoir Ibrahim.
Bonsoir.
Restez. Ibrahim. Vous savez quoi, vous allez rester avec moi. On va juste marquer une courte pause et on se retrouve avec tout ce beau monde pour parler des 40 ans, de vous savez, cette fameuse marche des beurs. Hein. Je crois que c'est plus comme ça qu'on dit, c'est la marche pour l'égalité.
On a beau être à Beurre FM ancienne, Radio Beurre.
Qui a contribué d'ailleurs, Beurre FM, à l'époque.
Qui a donné une voix supplémentaire à cette marche pour
c'est
l'égalité.
C'est vrai, on peut le dire. Bravo à Beurre FM. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h37 précisément dans Les Informés, et on parle de l'arabe dans le poste. Demain, ne pas manquer, rendez-vous exceptionnel avec un documentaire exceptionnel, passionnant, à demain sur TMC, 21h25. Tous demain devant, évidemment, le poste sur TMC avec Azidine Ahmed Chaouch, Moral Chibout, Naïma Yahi et enfin Youssef Kemane. Je vais accueillir, eh bien, Anan et ensuite Ibrahim. Bonjour, bonsoir Anan de Créteil.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Mais très bien, on vous écoute.
Bah écoutez, déjà, tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour le bruit de fond. Hein. Je suis dans ma cuisine en train de faire à manger.
Mais c'est bien, Voilà. Je vois que c'est convivial. Bien, ouais. C'est convivial. Dans la cuisine. Faites quoi à manger.
J'ai de la bavette.
Ouais.
Bavette, poisson et puis quelques frites pour les enfants.
On arrive tous là.
Écoutez, Créteil, Maison Alfort limite, vous m'appelez, vous me klaxonnez, j'arrive.
On vous écoute, Anan, allez-y.
Bah, écoutez, moi tout d'abord je voudrais dire douce France, cher pays de mon enfance. Effectivement, la France reste quand même toujours et restera toujours le pays de mon enfance. Ce que je retiens, c'est en fait quand je vous écoutais parler tout à l'heure, une anecdote en fait. Mon prof d'histoire à l'époque me disait, la France a accueilli les enfants de la colonie pour reconstruire la France. Mais maintenant que la France est reconstruite et qu'elle est en pleine crise, il faudrait les renvoyer chez eux. Je me suis indignée face à ça en disant que nous sommes le fruit de la France et nous serons le fruit de la France et nos enfants le seront avida aeternam parce que nous sommes nés en France et nous travaillons pour la France. Et nous faisons grandir la France. Et c'est aujourd'hui, c'est ça la France. Et la France d'aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas la France de demain. Parce que la France de demain, ce sont nos enfants qui doivent, et je dis bien qu'ils doivent, c'est une obligation pour l'image de la France, être au summum de leur réussite. Et quand on viendra dire c'est l'enfant de qui, ben, c'est le fils de Mohamed ou c'est le fils de Ahmed ou c'est le fils de Aïcha. Pourquoi ? Parce que en fait, ce sont nos ancêtres qui sont venus travailler pour la France et qui aujourd'hui ont fait grandir une nouvelle France, une France avec une autre image. Voilà.
C'est vrai. Vous avez raison. Azidine d'abord, Ahmed Chaouch et puis l'historienne surtout. Qu'est-ce que vous répondez à Anan ?
Oui, on commence le documentaire par les premières images d'arabes à la télé, de maghrébins à la télé. Je sais que le mot arabe, on peut en débattre, berbère, arabe. Les premiers arabes à la télé, ce sont des travailleurs, ce sont des ouvriers, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, ce sont des hommes avec des casques, ce sont des hommes qui construisent des voitures, ce sont des épiciers qui sont venus de Djerba. Ces images-là, ce sont les premières images qu'on a vues à la télé. Et nous, on a voulu commencer par ces images-là pour poser le contexte, parce que de cette réalité de reconstruction, de construction de la France,
ben nous découle un peu notre destin derrière. Et parfois, peut-être, il y a le sentiment que ben, on prend pas, comment dire, en compte ce qu'ont pu faire les parents, les grands-parents. Et peut-être que ce déchirement, il vient aussi de là. Voilà.
Naïma, justement, elle faisait référence à Nan de Créteil, à la période coloniale.
Oui, parce qu'elle a...
Le fruit, elle parlait de fruit. Nous sommes le fruit.
Le fruit, et surtout les mots malheureux de cet enseignant qui leur dit, gros, rentrez chez vous. Ça a été les politiques publiques, la fin des années 70. Et le film le raconte très bien, c'est la fin du mythe du retour. Pour les gens comme moi qui ont plus de 40 ans, on a tous connu cette angoisse de rentrer ou de retourner. Pour certains d'entre nous ne connaissions pas le pays de nos parents. Et notre destin, c'était de rentrer dans le pays de nos parents. Et rien ne nous y attendait. Ces politiques du retour se sont arrêtées au milieu des années 80. La gauche a repris cette politique publique de la droite. Et donc le grand changement sous Mitterrand n'a pas eu lieu. Et c'est vraiment à force du rapport de force de la marche pour l'égalité et contre le racisme qu'enfin on a considéré que nous, enfants d'immigrés, héritiers de l'immigration, on avait notre place dans ce pays avec les soubresauts, le racisme, les difficultés, les violences que ça a pu provoquer, mais quand même des trajectoires réjouissantes.
Anan, merci pour votre appel.
Merci à vous.
Avant d'accueillir
on
Ibrahim.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien. Oui, ça, c'est vrai. Ah, vous êtes une fidèle auditrice, je le sens. Vous avez bien raison. On ne lâche rien. Avant d'accueillir Ibrahim de Saint-Ouen, justement, il le rappelait à Zedine Ahmed Chaouch, Youssef Kemal, comment s'articule justement, il y a plusieurs parties, dans ces plusieurs parties, vous racontez d'abord, vous plantez assez bien le décor. Racontez-nous justement ce décor, comment il se présente.
Mais le film s'articule en trois parties. Dans la première partie, comme le disait Asdine tout à l'heure, on est revenu sur beaucoup d'archives qu'on a retrouvées à la télévision, des archives qu'on ne connaissait pas, on en a découvert certaines. Il y en a d'autres qui nous ont replongé dans notre adolescence, enfance, voilà. Donc la Zoubida, Rachid Ferrache et le Petit Beurre, La Cigale et la Fourmi de Pierre Péchin ouais, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que bon, il y a des choses qui nous ont fait sourire, d'autres qui on s'est dit ah ouais, quand même, c'est fort. Et les deux autres parties sont plutôt articulées sur les expériences, sur des choses plus intimes de nos invités. Et quand je parlais d'expériences communes tout à l'heure, c'est exactement ça. On va aborder la thématique du retour au bled, la thématique du prénom. Il y a aussi la langue. On a tous un rapport différent à notre langue d'origine, maternelle, et chacun nous raconte un petit peu comment on se fait ou on se défait de tout ça.
Je vais accueillir justement comment on se fait et on se défait dans tout ça. Ibrahim, bonsoir. Ibrahim de Saint-Ouen, 01 53 48 3000. Ibrahim, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Quel bonsoir dynamique. Hein. Allez, on vous écoute, cher Ibrahim.
Bah, franchement, sur le sujet... Allô ?
On vous écoute. Hein. Vous êtes en direct, allez-y.
Oui, ok. J'ai un rapport vraiment négatif. Hein.
Allez-y, mettez les pieds dans le plat.
C'est pire que Télérama.
Allez-y.
Eh ben, c'est simple. Moi, quand je regarde, je suis sur Paris. Hein. Ouais, bon, je suis limite Paris, quoi. Saint-Ouen, c'est limite Paris, quoi.
Oui.
Quand je vois les Noirs, les Maghrébins, c'est quoi, c'est... Allô ?
Allez-y, Ibrahim, allez-y, développez ce que vous voulez dire. Vous êtes en direct, cher ami.
Vous écoutons.
C'est quoi, c'est les métiers qu'on a, c'est vigile. Ou sinon, je vois des femmes noires qui poussent des poussettes avec des bébés blancs dessus. On remplit les prisons de France.
C'est ce fameux marqueur, c'est ce que je vous posais comme question.
Ah. Les Noirs et les Arabes sont en prison, en totalité. C'est plus que les Noirs et les Mexicains
mais votre constat,
en
c'est
prison
bien, c'est bien,
aux États-Unis.
C'est bien parce que vous êtes nombreux à le penser comme ça.
Maintenant, moi, je ne vais pas pleurnicher. Juste que qui ça serait à refaire. Parce que je crois que la dame disait oui qu'il y a eu la marche des beurs pour se faire respecter, tout ça. Comme disait un panafricain,
oui.
On ne peut pas forcer une femme à t'aimer. Si une femme ne t'aime plus, c'est mort, tu arrêtes. Voilà.
Ça, c'est vrai, je confirme.
On ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Maintenant, la France, on est vu et comme je vais être gentil, comme des sujets.
Comme des sujets. Vous entendez, c'est terrible ce que dit Ibrahim. Oui, vous êtes quelle origine, Ibrahim? Vous êtes de quelle origine, Ibrahim?
C'est important. Attendez, je vais vous dire mon origine, monsieur.
Non, parce
attendez
que ça me plaît, vous, ce que vous dites, parce que c'est un constat qui est partagé par beaucoup de gens. Non, mais c'est vrai,
Azedine. Bien sûr. Vraiment. Mais je vous donne un exemple.
C'est terrible,
monsieur.
C'est un échec, ça veut dire.
Un mendiant qui demande de l'argent dans la rue.
Oui.
Le monsieur, il rouvre son portefeuille. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Est-ce qu'il va lui, s'il a 300 euros, 200 euros, est-ce qu'il va lui donner la moitié? Non, il va lui donner un euro ou 2 euros. Ouais. Bon. C'est-à-dire que la France qu'elle nous donne, c'est des miettes. Alors, où je veux en venir, c'est que, mais c'est pas grave, c'est que le mieux, c'est qu'on retourne chez nous, qu'on construise chez nous.
Ce sera un échec.
Alors, je vous pose une question.
Oui.
Vous, c'est grave ce que vous me dites. Non, eh ben, c'est très, très grave.
Mais
oui,
parce que vous êtes français avant tout, n'oubliez pas. Vous êtes français,
Je ne suis pas français, moi. Je suis né en France. Oui. J'ai fait la maternelle en France. Mais on ne me considère pas comme un vrai français, c'est pas vrai.
Bon, alors,
écoutez, quand j'étais jeune, j'allais à la boulangerie, il y avait des gâteaux tête de nègre.
Oui.
OK? Alors, faut pas me dire que je suis français, faut pas se foutre de moi.
Non, mais je comprends.
Moi, j'allais dans les boulangeries, je voyais des gâteaux. Tête de nègre.
Ouais. Okay. Ibrahim, bon, justement, vous nous plongez dans l'histoire. Ouais. Justement, Azedine Ahmed Chaouch, je vais vous répondre, mais surtout l'historienne, je voudrais l'entendre parce que vous soulevez. Non, c'est pas ça. Je vous ai vraiment laissé longuement développer votre pensée. Là, il est 19h47. On approche la fin de l'émission et j'ai encore une question à leur poser et j'ai plus du tout le temps. Vous m'excuserez, mon cher Ibrahim, mais on va vous répondre. Ahmed, qu'est-ce que vous répondez à Ibrahim qui dresse là un constat terrible? Je vous ai parlé de marqueurs, d'espoir, telle leur source d'espoir. Et bien Ibrahim, quand on l'écoute, ça n'existe plus.
Bien sûr, je pense qu'il y a sûrement des gens qui vont regarder ce film et qui seront animés d'un désarroi qui existe. C'est pour ça que, en tout cas, les personnalités qu'on a interrogées, ce sont des personnes qui se sentent françaises, heureuses d'être en France, qui d'ailleurs sont très attachées, c'est intéressant, à leur territoire local. C'est-à-dire... Mourad vient de dire je suis Châteauroux.
Oui.
Naïma, c'est le nord de la France,
oui,
c'est
Tourcoing.
Ça
oui.
Tourcoing, exactement. Rachida Dati, elle me parle beaucoup de Chalon. On a Ali Latif, notre top modèle, qui dit qu'il est de Roquebrune-sur-Argent. Les Bédias sont du 92. Donc, il y a cette fierté, enfin, cette volonté, en tout cas, de s'inscrire dans le projet national commun.
Mais quand sans... Ibrahim il
oui,
dit
bien
non,
sûr.
Notre avenir, c'est de retourner
mais
dans nos pays d'origine.
Bien sûr.
Vous leur répondez quoi? Vous leur répondez quoi, vous? Non, mais attendez, question terrible. Je veux qu'on réponde à cela, s'il vous plaît. Ibrahim qui dit, notre avenir, c'est de retourner dans nos pays d'origine.
C'est pour
vous
ça
répondez
que,
quoi?
Modestement, à travers ces témoignages, je tente de le faire accrocher à certaines trajectoires qui peuvent donner quand même des perspectives, un rêve, un espoir. Les personnes qu'on a interrogées, elles ont plutôt utilisé les difficultés de leur vie comme un moteur. Voilà, c'est vrai que ça demande peut-être force de caractère. Ce sont encore peut-être
Naïma
perçus comme des exceptions, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui travailler en France et qui se sentent bien en France.
Naïma, et après je fais un tour de
écoutez,
table.
On a dit à mon père à la fin des années 70 que son destin était de rentrer chez lui. Il a très vite compris que c'était pas du tout son destin parce que rien n'y attendait. J'entends les frustrations, les douleurs et la tristesse d'Ibrahim
de Saint-Ouen
et la réalité sociale qui est la sienne, hein, puisque le pourtour parisien, la petite couronne, c'est celui des ouvriers courageux, ces femmes de ménage qui viennent nettoyer les bureaux à la Défense, ces ouvriers du bâtiment qui se lavent aux aurores.
Quand il dit ça, Ibrahim, il a raison. C'est tous les jours, quoi, c'est notre quotidien.
Il a ni raison ni tort. C'est que c'est ce paradoxe.
C'est ce qu'il voit. Non, mais dit, c'est ce qu'il voit.
C'est le paradoxe.
C'est ce fameux
marqueur. Oui, mais c'est le paradoxe de cette immigration d'Afrique du Nord, c'est qu'elle a produit à la fois des masses laborieuses et je crois que Mehdi Charef en témoigne dans le film. On nous a amenés pour remplacer nos parents, nous dit-il. Mais il y a aussi ceux qui vont déjouer cette réalité, puisque les enfants d'immigration d'Afrique du Nord sont ceux qui connaissent la plus forte ascension sociale de toutes les diasporas d'origine étrangère.
Moral Chibout.
Moi j'aurais pu sombrer, je veux dire, en cinquième. J'étais en cinquième, mon prof m'a dit... Il m'a dit, toi, tu dois faire un CAP de menuisier. Finalement, au fond,
c'était très à la mode à l'époque. Hein.
Ah ouais, c'était très à la mode. J'ai fait un doctorat d'éco. Ma mère était femme de ménage. Maintenant, elle est à la retraite. Mon papa a été ouvrier dans le terrassement, comme il disait à l'époque, et ensuite dans une usine. Et c'est grâce à leur force, leur abnégation, et puis ensuite au fait que j'ai beaucoup travaillé, que je suis arrivé. Donc, moi, je veux donner un espoir, finalement, à tous nos jeunes. Nous sommes français profondément. Nous sommes des enfants de la République.
Et notre job aujourd'hui à nous, qui sommes un peu représentants finalement au fond d'une espèce d'élite qui a réussi, eh ben, doit être complètement positif. Et moi, je veux être complètement positif parce que je pense que c'est les enfants de la nation, ce sont des contributeurs au business de demain, c'est et c'est donc des contributeurs à la nation française. Il faut jamais l'oublier.
Ibrahim, faut rien lâcher. Voilà, mon cher Ibrahim, les réponses sont très claires. Hein. Merci pour votre appel, mon cher Ibrahim de Saint-Ouen. Youssef Kemal, pareil.
Bah oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que chez nous, c'est ici. Repartir chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ça, chez nous, enfin chez moi, c'est la France, c'est ici. Après, moi, c'est pareil. Mon père a subi des humiliations.
Et pourtant, quand on est adolescent, on est torturé, tiraillé, à la fois par les pays d'origine
et une crise identitaire. Aujourd'hui, ça existe encore, mais faut
tirailler.
Mais faut réussir à se dire des réussites, elles existent, elles sont là, il y a la place, et en tout cas, faut se battre pour ça.
Oui, si on ouvre le chapitre, le cas Benzema, pardon, c'est exactement ce cas-là. On a beau être français, on a beau réussir, mais on va vous dire, vous n'êtes pas exactement comme nous. Voilà, oui, ça existe, on va pas être naïf non plus.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent? Malheureusement, je m'excuse auprès de tous les auditeurs qui appellent, et vous êtes tellement nombreux, mais vous savez quoi, je vous invite demain à regarder ce document. Je vous le dis, chers amis, ce document à ne pas manquer, exceptionnel demain, passionnant, nourri de plein de choses. Ça raconte une vraie plongée dans l'histoire. Film co-réalisé par Youssef Kemal et Azedine Ahmed Chaouch. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs
moi,
ce
j'ai
soir
envie de dire,
pour demain, le rendez-vous à ne pas manquer?
Oui, moi j'ai envie de dire, on a une force, les Maghrébins de France, les Maghrébins en général, je n'aime pas essentialiser, mais quand même, on va trouver un dénominateur commun, c'est le recul et l'autodérision. D'ailleurs, on voit à un moment beaucoup dans ce documentaire, on va appeler quoi, l'humour arabe, l'humour maghrébin, et ça c'est une force. Donc voilà, on peut rire de nous-mêmes de manière très puissante.
Eh ben, et gardons des questionnements.
Et c'est un optimisme, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme d'apaisement, je trouve.
Très court, en 5 secondes s'il vous plaît, parce que je dois rendre l'antenne. Youssef, pareil, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message?
Bah en tout cas, c'est exactement ça. C'était raconter un destin commun, des expériences communes.
5 secondes. Hein.
et soyez là demain soir, vous allez rire avec nous.
Rire, ça, c'est, on a besoin de ça en ce moment. En 5 secondes, l'historien ne sait pas faire. Parce que
envoyez-nous de l'amour, du soutien, parce qu'un sujet comme ça en ce moment, on sait qu'on a besoin de vous. Regardez cette belle émission et envoyez-nous vos commentaires chaleureux.
Sur TMC, Moral Chibout.
Moi, dans l'entreprise, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que vous êtes les forces de la nation de demain et d'aujourd'hui. Aujourd'hui et de demain. Et moi, je vous conseille 3 choses. C'est 1, beaucoup de travail. 2, construisez des réseaux sérieux. Et puis, ayez de l'audace pour développer vos affaires et votre carrière dans l'entreprise.
Merci à tous.
Et si vous voulez voir Morad Chibout pleurer, regardez, parce qu'il lâche les larmes. Spoil.
Merci à Morad Chibout. Merci à vous, Morad Chibout. Donc, au sein des différentes entreprises, notamment, on le connaît avec son CV auprès de Bolloré, Vincent Bolloré, mais également aussi Cdiscount. Merci à notre historienne, spécialiste des sujets issus de l'immigration, Naïma Yahi. Bravo, messieurs.
Merci
Youssef
beaucoup.
Kemal, merci. Réalisateur. Bravo, mon cher Azedine.
Merci à vous. Quel plaisir.
Bravo. Et bravo encore. Mais surtout demain, rendez-vous à ne pas manquer, je vous le dis, chers amis auditeurs. Demain, on se retrouve. Comment
21h25. Venez un peu avant.
Ouais, venez avant. Venez avant. Voilà, avant, ça veut dire quoi?
20h30. Il y a une invitée exceptionnelle demain qui est en rapport avec le doc.
20h30 sur TMC. Demain, tout ça devant la téloche. Bilal Nedman, c'est 20h, 21h avec Time Sport. Vanessa, 21h, 23h. Quant à moi, demain, Kim, demain matin. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Merci à Solal pour la réalisation. Demain, on replonge dans l'actualité. On reviendra sur tous les événements. À demain. Mais surtout, vous savez ce qu'on dit ici, hein?
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.